Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite après VibraSOS. C'est Biotine que vous écoutez tous les samedis à partir de 12h et pendant une heure, nous allons parler de l'actualité scientifique et technique. Je m'appelle Jean-Noël et je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Nous allons ensemble nous intéresser à l'actualité scientifique et technique un petit peu partout dans le monde. Il y a eu pas mal de choses encore ces dernières semaines avec quelques annonces qui concernent la santé, qui concernent l'espace, qui concerne la NASA notamment au niveau de l'espace, à la fois l'espace, à la fois l'air avec les avions et puis aussi l'espace, on verra tout cela. Et puis également pas mal de petites recommandations qui vont nous aider un petit peu à améliorer notre quotidien d'un point de vue santé et encore quelques rapports scientifiques assez alarmistes en ce qui concerne la pollution avec notamment cette annonce qui fait que la concentration en dioxyde de carbone n'a jamais été aussi élevée depuis 3 millions d'années sur Terre. C'est assez un peu alarmant. On va voir tout ça dans cette édition de Biotine. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai. Alors, autant des fois il y a des jours où il n'y a pas de journée internationale, autant le 18 mai on a le choix entre la journée internationale des musées, donc profitons pour aller visiter un musée aujourd'hui, et notamment des musées scientifiques et techniques, il y en a un petit peu partout où que vous soyez, vous renseignez-vous, vous aurez la possibilité de pouvoir visiter un musée scientifique pour apprendre d'une façon assez didactique, ludique, convivial, d'apprendre quelques notions scientifiques et techniques. Donc profitons de cette journée internationale des musées pour ce 18 mai. Et la journée mondiale du vaccin contre le sida, c'est également cette journée du 18 mai qui est consacrée donc au vaccin contre le sida. En 1990, c'était un 18 mai, on s'en souvient peut-être pour ceux qui ont vécu cela, le TGV bat le record de vitesse ferroviaire en atteignant 515 km/h. C'était le 18 mai 1990. Toujours dans l'éphéméride, au niveau de la naissance de Félix-Louis Lherminier, il est né le 18 mai 1779, c'est un pharmacien et un naturaliste français. Félix-Louis Lherminier fait des études de chimie d'histoire naturelle à l'hôpital de Lille avant de partir comme pharmacien pour la Guadeloupe en 1798, puis à Marie-Galante. Et suite au violent soubresaut de la Soufrière en 1797, il y a une commission de chirurgiens, de médecins, de pharmaciens qui a été créée en vue d'observer et d'analyser ces manifestations justement d'éruption de la Soufrière. Et il a fait partie justement de cette commission. Il a publié aussi plusieurs travaux sur les oiseaux, notamment sur le rôle et la fonction du sternum. Il publie également plusieurs mémoires dans les annales du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et en hommage à la famille, justement, de Félix-Louis Lherminier, eh bien, il y a le Piton Lherminier qui a été nommé ainsi au sommet, un sommet du sud de la Guadeloupe. Il y a également le Pavillon Lherminier qui est un bâtiment de Pointe-à-Pitre classé aux monuments historiques. Et donc, il porte le nom de Félix-Louis et de son fils Ferdinand-Joseph Lherminier, en hommage donc à celui qui est né un 18 mai 1779 et mort en 1833. Au niveau des décès, le 18 mai 2004, la mort d'Arnold Orville Beckham. Il est né en 1900 et il est donc décédé en 2004. Il est mort à 104 ans quand même, bravo à lui, un chimiste, un industriel, un philanthrope américain. Il inventa en fait ce qu'on appelle le pH-mètre en 1934 et il va créer la société Beckman Instruments pour distribuer commercialement son invention comme étant considérée comme ayant révolutionné l'étude de la chimie et de la biologie. Il a mis au point le spectrophotomètre à ultraviolet et il a subventionné la première société de fabrication de transistors et il a contribué par là à la naissance de la Silicon Valley. Arnold Orville Beckham, né en 1900, est mort donc le 18 mai 2004 en Californie. C'est donc l'éphéméride d'aujourd'hui. Et pour continuer toujours comme d'habitude pendant toute cette année 2019, nous allons remplir tous ensemble le tableau périodique des éléments. Je vous rappelle que 2019 est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, ce fameux tableau où on a tous les éléments chimiques et qu'on avait en général accrochés dans nos salles de classe. Et donc, ce tableau avec plusieurs cases, nous allons remplir aujourd'hui la case numéro 3. Le 1, c'est l'hydrogène, le 2, c'est l'hélium, et le 3, c'est le lithium, qui est le premier élément alcalin du tableau périodique. C'est le moins dense à l'état solide. Il est l'un des trois éléments engendrés à la naissance de l'univers avec donc l'hélium et l'hydrogène. Sa légèreté et son haut potentiel électrochimique en font un élément de prédilection pour les systèmes de stockage électrochimique dans les batteries, d'où les batteries à lithium. Des composés du lithium sont également utilisés dans la production de verre et de céramique. Et donc en 1970, les premières piles au lithium ont été mises au point afin de remplacer celles au zinc. Il y a plein d'utilisations pour le lithium. Il est utilisé en pharmacie dans les troubles bipolaires. Il est donc utilisé en électronique. Il y a également un isotope qui est extrait du lithium naturel et qui est utilisé pour produire du tritium. Et ce tritium est utilisé dans la fusion nucléaire. C'est le principe notamment de fonctionnement de la bombe atomique H ou du programme ITER également. Donc le lithium a plein d'applications. Il est même utilisé en pyrotechnique sous forme de nitrate, ce qui donne une jolie couleur rouge, notamment dans les feux d'artifice. Le lithium, numéro atomique le 3, donc la troisième case, et le symbole chimique grand L, petit i, pour le lithium. Voilà. On a tous ensemble rempli ce tableau périodique des éléments. On va retrouver dans cette émission Anne Fleur qui nous emmène un petit peu partout dans le monde. Après Boston, après de mémoire, je crois que c'était Sydney. Et la semaine dernière, nous étions à Paris. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle nous emmène cette semaine, mais on va le savoir dans cette émission. Et puis, on va parler voilà, un petit peu de l'actualité des airs et de la médecine. C'est un beau programme que je vous propose dans cette émission, donc n'hésitez pas à pouvoir liker un petit peu tous les réseaux sociaux en ce qui concerne Graphite, parce que vous pouvez suivre l'actualité de Graphite sur Twitter et sur Facebook, bien sûr. Plein de moyens pour pouvoir nous écouter et pour pouvoir suivre l'actualité de Graphite, bien entendu. Juste après, nous allons écouter un titre, mais je voulais commencer avec cette annonce qui nous dit que 11 millions de personnes sont décédées dans le monde, à cause d'une mauvaise alimentation. En fait, ça représente un décès sur cinq. La mauvaise alimentation est responsable d'un décès sur cinq. La surconsommation de sel, de sucre, de viande, des apports insuffisants en céréales complètes et en fruits, tout ceci est pointé du doigt par cette nouvelle étude qui a été diffusée il y a quelques jours. La quasi-totalité de ces décès a été provoquée par des maladies cardiovasculaires et le reste par des cancers et de diabète de type 2, souvent associés à l'obésité et au mode de vie, avec une alimentation déséquilibrée, la sédentarité. C'est une étude qui a donc été publiée dans la revue The Lancet. Et en janvier déjà de cette année, la revue médicale avait déjà publié une première étude réalisée par les mêmes scientifiques et elle préconisait de diviser par deux la consommation mondiale de viande rouge et de sucre et de doubler celle des fruits, des légumes et des noix pour aboutir à un régime bon pour la santé et pour l'environnement. Et donc cette nouvelle étude porte sur 195 pays et selon ses conclusions, les principales carences dans l'alimentation mondiale concernent les noix et les graines, le lait et les céréales complètes et à l'inverse, bien sûr, les boissons sucrées, la viande transformée, le sel sont trop consommés. Cette étude montre ce que nous sommes nombreux à penser depuis des années. Une mauvaise alimentation est responsable de davantage de morts qu'aucun autre facteur de risque au monde. C'est ce qu'a affirmé l'un des auteurs, Christopher Murray. Il dirige l'Institut de métrologie et d'évaluation de la santé à Washington. L'étude met en évidence de grosses disparités selon les pays. Ceux avec les plus importants taux de décès liés à une mauvaise alimentation sont l'Ouzbékistan et l'Afghanistan, et à l'inverse, ceux où cette proportion est la plus faible sont Israël, la France, l'Espagne et le Japon. Les auteurs reconnaissent toutefois des limites à leur étude, parmi elles le fait que le lien entre l'alimentation et les décès ne peut être établi avec autant de certitude que dans le cas d'autres facteurs de risque, comme par exemple le tabac, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on nous annonce que la mauvaise alimentation serait responsable d'un décès sur cinq. Eh bien écoutez, si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous mangez sainement beaucoup plus de fruits. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous rabâche. Donc ça doit être sûrement vrai. On va feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique tout de suite après ce premier titre sur l'antenne de Graphite. We'll be right back. Mortel, c'était Fishback sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite et vous avez bien raison, ce qui vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique bien évidemment. On va notamment s'intéresser à ce qui se passe en aéronautique où parfois de façon un peu étonnante, la recherche s'inspire du passé. Ainsi, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, les aéronefs ne disposaient pas d'ailerons en tant que commande de roulis pour tourner. Les câbles de commande de vol se contentaient tout bonnement de tordre les ailes pour incliner l'avion à gauche ou à droite et puis ensuite virer. Et les structures souples et à la fois robustes étaient constituées de bois et de toile. Ces ailes, sans ailerons, employaient la technique dite du gauchissement. C'est d'ailleurs avec ce type de commande que Blériot était parvenu à traverser la Manche en 1909. Et bien aujourd'hui, les chercheurs du MIT et de la NASA ont conjointement mis au point une aile d'avion qui exploite ce même système de torsion pour modifier la trajectoire de l'appareil et surtout optimiser le rendement du vol. Il n'y a donc plus d'aileron, mais aussi il n'y a plus de volet non plus pour modifier le profil d'aile à basse vitesse et éviter le décrochage près du sol. Mieux encore, le fuselage disparaît au profit d'un profil d'aile volante. Exploité souvent par les avions militaires, eh bien ce type de forme d'aéronef cumule les atouts. L'aile volante, elle dispose du meilleur rendement associé à une faible signature radar. Son plus gros défaut repose sur sa relative instabilité durant certaines phases du vol. Ce souci serait justement réglé avec l'innovation mise au point par les chercheurs. Et avec leur concept, dans toutes les phases du vol, l'aile serait plus efficace en ajustant sa forme selon les angles d'attaque. C'est en tout cas ce qu'ont démontré les tests menés en soufflerie au centre de recherche de la NASA. Les résultats étaient même au-delà des espérances des chercheurs. La structure de l'aile est constituée en treillage pour assurer une déformation sans crainte des contraintes pouvant dégrader l'aile. C'est un matériau polymère très fin qui recouvre l'aile pour la rigidifier. Et avec ce matériau, la surface ressemblerait à du caoutchouc. L'ensemble serait bien plus léger d'ailleurs et du coup l'aile serait bien plus efficace et permettrait de dépenser beaucoup moins d'énergie que les matériaux les plus performants qui sont disponibles actuellement. Là où la technique moderne améliore le vieux procédé de gauchissement, c'est que ces déformations peuvent ajuster de façon automatique le profil de l'aile selon les angles d'attaque et les contraintes. Les chercheurs n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient déjà conçu il y a quelques années une aile d'un mètre de long reposant sur ce même principe. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de modélisme puisque l'aile en question mesure cette fois 5 mètres et qu'elle peut être testée sur une puissante soufflerie. Les chercheurs estiment qu'au lieu de concevoir cette aile artisanalement à la main, elle pourrait être fabriquée par des petits robots autonomes. Il faut dire que l'assemblage de la structure à partir de petits triangles est plutôt répétitif, donc du coup ça serait mieux d'y mettre des robots. C'est d'ailleurs le nouveau projet que souhaite entreprendre cette équipe de chercheurs. On suivra donc tout cela, mais enfin voilà, la NASA et le MIT qui développent un avion qui change de forme dans les airs. C'est assez intéressant de voir que finalement les anciennes prouesses technologiques peuvent encore servir aujourd'hui. Donc vous pouvez voir sur certains sites internet un petit peu ce que ça donne. Il y a certaines vidéos qui montrent cela. C'est assez intéressant et assez bluffant, évidemment. Autre sujet, cette étude parue dans la revue Frontiers in Psychology qui va peut-être inspirer les professionnels de la santé qui sont confrontés à des patients stressés. Dans un communiqué, eh bien, Marie-Carole Hunter, qui est la principale auteure de cet article, a expliqué que, je cite, « Nous savons que passer du temps dans la nature réduit le stress, mais jusqu'à présent, on ne savait pas trop à quel point, combien de fois le faire, ni même quel type d'expérience de la nature nous profiterait. » Eh bien, pour répondre à ces questions, les chercheurs ont recruté plusieurs personnes qui vivaient en ville, 36 personnes précisément, et sur une période de 8 semaines, les participants devaient passer du temps dans la nature, au moins 10 minutes, 3 fois par semaine ou plus. Et on a mesuré les niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ces niveaux donc, ont été mesurés dans un échantillon de salive. Et la chercheuse précise que les participants étaient libres de choisir l'heure de la journée, la durée et le lieu de leur expérience dans la nature. Les auteurs leur ont quand même imposé quelques contraintes, c'est-à-dire passer ce temps en pleine nature de jour, sans faire de sport au même moment et éviter d'utiliser bien sûr son téléphone portable pendant ce moment un petit peu privilégié. Résultat, eh bien, les résultats ont montré que seulement 20 minutes suffisent à réduire de manière significative le taux de cortisol. Cortisol, peu importe qu'il s'agisse de marcher, de rester assis, à contempler la nature. On s'en moque, l'idée c'est qu'il faut avoir une dose de nature entre guillemets entre 20 et 30 minutes, ça ferait chuter donc efficacement le taux de cortisol. Au-delà, il y a aussi des bénéfices, mais qui augmentaient de plus lentement. Donc si on veut vraiment être dans une société où il faut tout optimiser, vous restez 20 minutes en pleine nature, vous ne faites que ça. Vous marchez, vous restez paisible, vous n'êtes pas là distrait par votre téléphone portable. Seulement 20 minutes et vous êtes dans une situation de diminution du stress, ça nous fait du bien, ça vous fait du bien. Marchez, bon sang, dans la nature, c'est ce que l'on vous dit à côté des studios de graphite. Il y a la grande région, la grande forêt de Compiègne, ça peut être l'occasion voilà, de faire une petite balade en forêt régulièrement et ça nous ferait du bien apparemment. Si vous avez la possibilité d'aller en pleine nature, vous avez beaucoup de chance, profitez-en. C'est donc cette étude qui annonce les effets bénéfiques de cela. Il y a aussi la musique qui parfois nous déstresse un petit peu. Alors on va écouter Nord avec L'amour s'en va. Ouais, c'est pas génial, c'est pas un beau programme, mais peut-être que ça va nous détendre. À tout de suite.
L'amour s'enfuit. L'amour s'en fout. L'amour s'assoit un peu sur tout et l'on se suit un peu partout. L'amour traîné dans la boue. L'amour s'en va. L'amour de toi. L'amour de moi. L'amour qu'on a. L'amour qu'on a fait autrefois. L'amour sépare. L'amour répare. C'est pas simplement une partie de plaisir. Quand c'est fini, quand c'est parti, des souvenirs ensevelis au fond d'un lit, dans un recueil. L'amour écueille. L'amour écoeur. C'est du bonheur ou c'est un deuil. La surimbant. Une cour d'école. Du bout des doigts. L'amour ça colle. Dis-moi pourquoi. L'amour s'en va. L'amour de toi. L'amour de moi. L'amour qu'on a. L'amour qu'on a fait autrefois. L'amour à qui? L'amour à quoi? L'amour c'est comme une allergie qui reprend des fois. Et ça vient fou. L'amour c'est tout. L'amour c'est rien ou rien du tout. C'est tout ou rien. L'amour s'éteint à bout de souffle. Des sentiments, il y en a tant. Il y en a trop, c'est dérangeant. Quand ça se répand comme du sirop. C'est écœurant et c'est salaud. Et c'est va-t'en. 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 L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois.
L'amour s'en va, c'était Nord sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés, je vous le dis à chaque fois, de l'actualité scientifique. Parce qu'il y a parfois voilà, certaines annonces qui sont assez effrayantes, et notamment celle qui nous vient de l'Université du Michigan aux États-Unis, qui nous explique qu'on évalue entre 290 et 650 000 le nombre de personnes qui meurent chaque année de complications respiratoires liées à la grippe. Et la découverte faite par des chercheurs donc de l'Université d'État du Michigan pour apporter une explication. Des travaux menés sur des souris suggèrent en effet que ce qu'on appelle le butylhydroquinone tertiaire affaiblit notre réponse immunitaire au virus de la grippe. Ok, très bien, mais ce butylhydroquinone tertiaire, c'est quoi? C'est un additif alimentaire qui a comme nom de code le E319, un additif plutôt courant que l'on trouve par exemple dans les chewing-gums, dans les céréales du petit déjeuner, dans les préparations pour gâteaux, dans les soupes, dans les viandes surgelées. Nous avons observé qu'un régime alimentaire riche avec ce additif supprime la fonction des cellules T auxiliaires et des cellules T tueuses. C'est ce qu'explique Robert Ferreborn et qui dit que justement il y a de quoi aggraver les symptômes des souris atteintes de la grippe. Les chercheurs soupçonnent donc cet additif de réguler à la hausse la production de certaines protéines connues pour affaiblir le système immunitaire, mais des travaux plus poussés seront nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Un régime riche avec ce butylhydroquinone tertiaire semble par ailleurs également affecter la mémoire du système immunitaire, car lors d'une nouvelle infection par une souche apparentée, eh bien, les souris soumises à ce régime ont subi une grippe plus longue que les autres. Une observation qui inquiète les chercheurs. Elle pourrait en effet avoir des conséquences sur l'efficacité des vaccins antigrippaux qui reposent justement sur le principe de mémoire du système immunitaire. Mais donc voilà, un additif alimentaire qui affaiblirait nos défenses contre la grippe, c'est le E319, donc gardez cela en mémoire et regardez sur vos emballages pour voir s'il apparaît, parce que finalement cet additif n'est pas si génial que ça. Allez, on va partir un petit peu plus loin, je ne sais pas où va nous emmener Anne Fleur, mais toutes les semaines depuis fin avril, Anne Fleur nous propose une chronique sur les inventions du monde. Nous sommes partis à Boston, nous sommes partis à Sydney, nous sommes allés à Paris. Et là, ben je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle nous emmène. Ah, ça va être la surprise. Bonjour Anne Fleur.
Good morning Compiègne. Bonjour à tous et bonjour Jean-Noël. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end s'annonce plutôt bien de votre côté. Ici je vous parle depuis Boston et je vais comme à mon habitude vous faire voyager tout en découvrant les inventions et les innovations d'une nouvelle région du monde. La semaine dernière nous étions à Paris, nous avons aussi exploré l'Australie et la côte est américaine. Alors aujourd'hui direction plein est, à Moscou au cœur de la Russie. Quelles sont les inventions de la Russie ? C'est parti. La première invention dont je vais vous parler aujourd'hui est très impressionnante. L'invention des trains à propulsion électrique fut en fait la condition sine qua non au développement de villes entières et de centres industriels, puisqu'il permit la révolution des transports des matières premières. Cela a commencé en 1874, alors qu'un certain Pirotsky, désolé pour mon accent russe, conduit une série d'expériences visant à transmettre l'électricité sur de la distance tout en utilisant un rail comme conducteur et l'autre rail comme son inverse. Un moteur électrique localisé à 1 km de la source marchait très bien. Quelques années plus tard, il répéta cette expérience près de avec une quarantaine de personnes dans le wagon et c'était ainsi le premier voyage en train électrique. Et c'est une dizaine d'années plus tard, en 1881, que le premier tram vit le jour dans la banlieue de Berlin grâce au design de ce monsieur Pirotsky. La seconde invention dont je vais vous parler, elle nous est chère à tous, puisqu'en fait on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui sans cette invention d'Alexander Popov. Saviez-vous que la radio venait de Russie ? Popov était prof de physique et il a annoncé avoir inventé un système de communication sans fil lors d'une présentation en 1885 et a fait une démonstration de la première radio au monde. Comme il travaillait pour l'armée à l'époque, il n'a pas pu publier son travail avec plein de clauses de confidentialité et il s'est fait du coup doubler la priorité par l'italien Marconi une dizaine d'années plus tard qui la commercialisa rapidement. La troisième innovation dont je vais vous parler est vraiment très impressionnante. Qui ici a déjà fait un tour d'hélicoptère ? J'ai personnellement eu la chance de faire un tour d'hélicoptère à Québec il y a quelques années et c'est particulièrement fascinant. Sirorsky est l'inventeur russe qui créa le prototype d'un dispositif à rotor qui décolla du sol en 1910. 2 ans plus tard, il créa le premier hydroglisseur au monde et le premier avion à plusieurs moteurs. Après la révolution de 1917 en Russie, il est parti aux États-Unis où il monta son entreprise Sirorsky Aero Engineering Company. Son design de l'hélicoptère est d'ailleurs utilisé dans plus de 95% des hélicoptères actuels encore dans le monde. Quatrième invention dont je vais vous parler va peut-être vous surprendre. Un des desserts, moi, qui personnellement me manque le plus en vivant à l'étranger, non, c'est pas l'éclair au chocolat, c'est pas la tarte aux fraises, même si je les adore, hein, c'est le yaourt nature. Vous n'imaginez pas la chance que vous avez d'en avoir sous la main. Bref, la quatrième invention dont je vais vous parler, c'est le yaourt. Alors, la culture des produits laitiers, elle a commencé il y a plusieurs centaines d'années, c'est sûr, je remets pas ça en question. Mais le scientifique russe Mechnikov, qui a théorisé pour la première fois leur impact positif sur la longévité, il est bien russe. En 1910, il suggéra que pour vivre plus longtemps, l'humain doit consommer des produits laitiers fermentés, car ceux-ci réduisent, ou plutôt même ralentissent, le procédé de putréfaction des intestins. Alors bon appétit, je suis désolée pour ceux qui sont en train de déjeuner. Il a d'ailleurs prouvé que la Bulgarie, qui est connue pour avoir mélangé le lait et les produits laitiers fermentés, a le plus haut taux de personnes centenaires au monde, du moins à l'époque. Et pour terminer, comme j'aime bien le faire, je vais vous parler de la start-up russe qui m'a intéressée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Telegram. Elle est souvent citée dans les scandales de politiciens qui s'écrivent en cachette, ou malheureusement d'autres organisations moins recommandées qui l'utilisent pour communiquer de manière cryptée. Et en fait, c'est ça. Telegram, c'est une application de messagerie cryptée, c'est l'application de messagerie la plus sécurisée et la plus rapide qui soit disponible au grand public, et elle a plus de 100 millions d'utilisateurs quotidiens, et ce seulement après 2 ans et demi d'existence, ce qui est particulièrement impressionnant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la balade. Pour briller en société, souvenez-vous donc de la start-up Telegram qui vient de Russie et que l'on doit le train électrique, la radio, le yaourt, les hélicoptères à la belle ville de Moscou. Rien que ça. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne Fleur. Et puis du coup, je t'offrirai des pots de yaourt nature si ça te manque. Quelle idée aussi d'être à Boston. Ici en France, on mange des yaourts nature tous les jours. Merci Anne Fleur de nous envoyer, de nous faire balader comme ça. Et là, c'était Moscou, c'était vraiment intéressant. Et puis un petit hommage bien sûr à Popov avec cette formidable invention qu'est la radio. Allez, un peu de musique et puis on se retrouve juste après sur l'antenne de Graphite.
You made up the rules, now you're losing. Facing a big red light. Once you were queen, love was supreme, and roses were blooming outside. There was nothing left to say when I just walked away, slamming your door. Tears I shed every day. You walked hand in hand, all with that whore. I don't need no proof you are burning, facing a big, big fight. Everything's good till we wreck it, and boy, did we wreck it this time. There was nothing left to say when I just walked away, slamming your door. Tears I shed every day since you walked hand in hand, oh, with thy heart.
Broken Song du groupe Norma sur l'antenne de Graphite. Ah, on va partir. On va partir au mont Denali. C'est le point culminant d'Amérique du Nord. Ah, on va aller un petit peu respirer là-bas de l'air pur. Enfin, de l'air pur qui, finalement, va sentir un petit peu moins bon dans les années à venir. Parce que cette montagne, il y a quand même 6190 mètres d'altitude au sud de l'Alaska, cette montagne risque de voir ressurgir les milliers de tonnes d'excréments laissés par les alpinistes au fil du temps. Le sommet est en effet particulièrement fréquenté. 1200 personnes tentent chaque année son ascension, considérée comme un trophée dans le monde de l'alpinisme. Chaque grimpeur générant environ un demi-kilo de déjection durant une course de 18 jours. Cela représente plus de 66 tonnes d'excréments accumulés au cours du siècle dernier, c'est ce qu'a calculé le site USA Today. Initialement, les alpinistes avaient pris l'habitude de déposer leurs déchets dans des crevasses plus ou moins profondes du glacier Kalintna, qui est la route la plus commune pour accéder au sommet. L'idée généralement répandue était que la glace finirait par les broyer et qu'ils se décomposeraient alors naturellement. Erreur, parce que les déjections congelées sont en réalité restées intactes et sont descendues en contrebas. Ils refont surface face ou d'autres glaciers moins hauts et il commence à fondre. C'est ce que témoigne Michael Lozo, glaciologue au service des parcs nationaux américains. Il étudie le problème depuis plusieurs années. Il affirme être très préoccupé par la fonte des glaciers qui s'accélère. Durant les 50 dernières années, eh bien, leur surface a ainsi diminué de 8% d'après les études du parc national. Conséquence, les déjections commencent à réapparaître au premier camp de base situé à 2200 mètres d'altitude. On pourrait en retrouver dès le début de la saison des ascensions au mois d'avril. Elles auront le même aspect et sentiront aussi mauvais que lorsqu'elles ont été déposées. C'est ce qu'alerte Michael Lozo. Le problème ne concerne malheureusement pas seulement les grimpeurs. Les microbes des excréments survivent en effet parfaitement leur séjour dans la neige. Des analyses menées dans les rivières alimentées par le glacier ont ainsi révélé la présence de bactéries fécales, même si leur taux demeure en dessous des normes en vigueur pour les bases de loisirs, mais en tout cas elles existent. Et donc face à ce problème, les guides du parc du Mont Denali ont décidé depuis cette année d'obliger leurs clients à redescendre leurs excréments en dessous de 4300 mètres d'altitude et à côté du camp de base. Alors uniquement, je suis désolé de parler de ces détails-là, vous êtes à table sûrement, mais bon, c'est l'actualité qui veut ça. On descend uniquement les excréments, pas l'urine, parce que c'est trop lourd à transporter à force. Le service des parcs nationaux teste également depuis quelques années des toilettes portables, des sortes de bidons munis de sacs favorisant la biodégradation des déjections. La discipline semble plutôt bien suivie par les grimpeurs, généralement soucieux de l'environnement. Le mont Denali n'est pas le seul sommet à avoir des choses indésirables ressurgir à la faveur du réchauffement climatique. Sur les pentes de l'Everest dans l'Himalaya, ce sont des cadavres qui refont surface. 300 alpinistes y sont décédés depuis 1921 et les deux tiers des corps n'ont jamais été retrouvés. Des mains et des jambes ont réapparu sur le camp de base 4 ces dernières années. C'est ce qu'explique un responsable d'une ONG locale. Et l'année dernière, ce sont les corps entiers de deux alpinistes islandais disparus il y a 30 ans qui ont été découverts au pied d'un glacier. Voilà, on trouve de tout, mais en tout cas cette montagne américaine, le mont Denali, menacée par 66 tonnes d'excréments. On n'y avait pas pensé à ça en fait, finalement. Heureusement que Viotine est là pour s'inquiéter des excréments des alpinistes. Pardon. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on trouve de tout dans l'actualité scientifique. Parce qu'on s'alarme, c'est bien beau de s'alarmer, mais bon, il y a un moment où il faut agir, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est assez étonnant. Pardon, alors on va continuer. Non, parce que je me dis, dans cette émission, on parle parfois de choses hyper sérieuses, hyper lourdes, des fois sur le cancer, le sida, Alzheimer, vraiment des choses vraiment très intimes et très lourdes. Puis des fois, on a vraiment des sujets comme ça assez légers, si on peut évoquer les 66 tonnes. Mais bon, va falloir être vigilant. C'est étonnant parce que quand on parle comme ça des grandes montagnes, ça fait rêver quelque part. On s'est dit, ah ouais, c'est vrai, c'est beau, c'est pur, c'est naturel. Tu parles, c'est comme partout pareil. Bon, c'est pas grave. Alors, on va continuer. Je sais pas du tout par quoi je vais continuer parce que la transition va pas être simple, mais on va peut-être s'intéresser à... Allez, tiens, il y a un autre sujet aussi alarmiste. Ce secret bien gardé depuis des décennies. Saudi Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, a publié il y a quelques jours ses chiffres pour la première fois depuis sa nationalisation en 1976. En vue d'une émission d'emprunt international, elle a compilé un document de près de 500 pages destiné aux régulateurs, aux agences de notation et aux acteurs du marché, où figurent notamment ses capacités de production et ses réserves. Il y a une montagne de chiffres, c'est une autre montagne bien sûr, une montagne de chiffres dans laquelle se trouve une surprise assez importante et de taille. Le champ pétrolier de Gawar, le plus vaste champ pétrolier du monde, avec des réserves estimées à 48 milliards de barils, eh bien ce champ pétrolier aurait vu sa capacité maximale de production décliner de 3 millions de barils par jour, là où le consensus des analystes l'estimait plutôt à 5 millions. Et donc en 2017, l'agence d'information sur l'énergie américaine qui produit des statistiques faisant référence sur le marché avait donné un chiffre de 5,8 millions de barils. Eh bien, cette compagnie pétrolière saoudienne a indiqué que c'est moins en fait. Et on est en train d'insister au déclin à un rythme alarmant du plus plus grands champs de pétrole du monde. On se demande bien par quel mystère ce champ de Gawar a perdu un quart de sa productivité en 15 ans. Le document qui a donc été diffusé n'indique aucune perspective pour les années à venir et la compagnie s'est refusée à tout commentaire. Ce champ de Gawar constitue pourtant un avoir stratégique de l'Arabie Saoudite qui n'aurait aucun intérêt à minimiser son potentiel. Le gisement qui était découvert en 1948 représente la moitié de l'or noir déjà extrait dans le royaume. L'Arabie Saoudite ne risque cependant pas de manquer de pétrole parce que le pays disposerait de 226 milliards de barils de réserve, ce qui représente à peu près 52 ans de production à son rythme maximum. C'est quand même pas mal. Elle dispose par ailleurs d'autres champs pétroliers géants qui offrent des gisements offshore vraiment importants avec plusieurs millions de barils par jour. Mais en tout cas, la documentation souligne une diminution plus faible qu'attendue du rendement de ces 101 champs de pétrole. Il y a donc un déclin important sur ce grand champ de sur le plus grand champ de pétrole du monde. Un déclin à un rythme assez alarmant. Sur ce champ, mais d'une façon générale au niveau de l'Arabie Saoudite. Elle a encore des réserves, rassurons-nous. Voilà, allez, on va écouter encore un autre titre sur l'antenne de Graphite, et puis on va se retrouver juste après pour continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. A tout de suite.
Now I wonder how, yeah, on a lazy
Heaven to Me, c'était Théo Laurence sur Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé grâce au podcast ou avec la rediffusion le mardi matin à 10h et en direct pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM 94.9, bien sûr pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Biotine tous les samedis sur la revue de presse de l'actualité scientifique. On ne peut s'obliger quand même de parler de ce qui se passe dans l'espace, parce que, et notamment de Mars, avec la NASA qui vient de confirmer que son hélicoptère martien était prêt. Après avoir simulé des vols martiens pour s'assurer que l'hélicoptère pourra voler sur Mars pour tester son appareil, eh bien, il a fallu recréer sur Terre les conditions atmosphériques de Mars. Et cela n'a pas été une mince affaire, car il est très difficile de simuler l'atmosphère martienne. Il faut savoir que cette atmosphère est à seulement 1% de la densité de l'atmosphère terrestre, de sorte que pour obtenir une telle densité atmosphérique similaire ici sur Terre, il faut se situer par exemple à plus de 30 000 mètres d'altitude. Ça donne quand même une idée un petit peu de la condition de l'atmosphère martienne. Et donc pour simuler ces conditions martiennes, la NASA a donc créé une chambre à vide de plus de 7 mètres de large, à l'intérieur de laquelle les principaux constituants de l'atmosphère terrestre ont été extraits et remplacés par du dioxyde de carbone, qui est le composant principal de l'atmosphère de Mars. Pour tenir compte de la faible gravité sur Mars, qui correspond à 2/3 de celle sur Terre, eh bien, il y a un câble motorisé qui a été attaché au sommet du mini-hélicoptère de façon à compenser les effets de la gravité terrestre pendant justement les vols de test. Et pour se maintenir en l'air, eh bien, les pales de l'hélicoptère devront tourner à près de 3000 tours par minute, ce qui est quand même pas mal, un rythme 10 fois plus élevé que celui nécessaire sur Terre et qui est donc censé compenser les effets de l'atmosphère martienne. Les ingénieurs, les techniciens ont également dû s'assurer que leur petit hélicoptère sera capable de fonctionner et de résister aux températures très négatives attendues sur Mars, où on attend à peu près jusqu'à moins 90 degrés Celsius, donc c'est vrai que ça va être assez froid, et pour cela on a équipé cet hélicoptère de cellules solaires pour charger ses batteries et d'un mécanisme de chauffage pour affronter bien sûr ces températures glaciales. Si ce petit hélicoptère qui pèse seulement 1,8 kg, hein, donc c'est vrai que c'est vraiment très léger, réussit à décoller, puis à voler dans les airs de Mars, eh bien ce sera évidemment un exploit technologique sans précédent, ouvrant la voie à de nouvelles utilisations de la robotique pour explorer les mondes du système solaire. Il faut savoir que les seules tentatives d'exploration aérienne planétaire à ce jour ont été faites avec des ballons sur Vénus. En 1985, il y a eu deux sondes soviétiques Vega 1 et Vega 2, dont la destination finale était la comète de Halley, ont largué chacune lors de leur passage à proximité un atterrisseur et un ballon sonde. Et les deux ballons ont été déployés à 154 km de la surface de Vénus. Ils ont fonctionné durant 46 heures. Depuis, quelques exploits faits avec Vénus. Et là, bah maintenant, la prochaine destination, on le sait, ça va être Mars. Et donc, on lance plein de recherches actuellement pour essayer de produire des prototypes vraiment performants. Et donc là, on s'intéresse à l'espèce d'hélicoptère qui ressemble plutôt à un drone, on va dire, dans ce cas-là, et qui puisse être totalement opérationnel. Eh bien, apparemment, oui, c'est ce que vient d'annoncer donc la NASA sur ce petit hélicoptère qui va donc pouvoir voler sur Mars en 2021. Ça y est, il est prêt, lui, il est prêt à partir et il est prêt à fonctionner. C'est une prouesse technologique totalement fascinante. Je vous disais dans les titres de cette émission qu'il y avait une étude qui avait été diffusée il y a quelques jours et qui nous annonce que la concentration dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique en cours, eh bien cette concentration est au plus haut depuis 3 millions d'années, ce qui rend inéductable la hausse dramatique de la température de la Terre et la hausse aussi du niveau des océans en quelques siècles. C'est ce que mettent en garde ces chercheurs qui ont fait donc pas mal d'études et d'analyses pour essayer de voir voilà, s'il était possible d'avoir quelques éléments de comparaison par le passé. Et oui, c'est possible d'avoir quelques comparaisons parce que pour cela, ils ont à la fois utilisé des carottes de glace et qui leur permet justement de voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, des carottes de glace quand même assez longues, ce qui leur permet d'avoir des informations sur les conditions atmosphériques et notamment les concentrations d'oxyde de carbone il y a quelques millions d'années. Et donc, on a pu faire des comparaisons entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé il y a 3 millions d'années. Et donc, on se rend compte que pour l'instant, la concentration d'oxyde de carbone n'a jamais été aussi élevée sur Terre. Et on n'a jamais eu un tel taux de concentration, et donc les conséquences ensuite sont assez importantes. On en parle régulièrement dans cette émission, mais on en parle tous les jours dans les différents médias, du réchauffement climatique bien sûr, mais là ça en corrobore encore une fois de plus une nouvelle façon de voir un petit peu, de savoir que ça va dans un sens qui n'est pas vraiment optimal. Allez, on écoute un dernier titre dans cette émission parce qu'on arrive bientôt déjà, mais ça passe à une vitesse folle cette émission, j'ai jamais vu ça. On va écouter un dernier titre, on va écouter Sam Carroll, et on se retrouve pour terminer cette émission avec cette question, c'est savoir si le fait de se forcer à sourire, est-ce que ça rend finalement plus heureux ? On n'en sait rien. On verra ça juste après Sam Carroll. Bienvenue sur Graphite si vous nous rejoignez.
Yeah.
Cosmicia, c'était San Carol sur l'antenne de Graphite. Pour terminer cette émission, on va s'arrêter à ce qu'on apprend depuis notre plus jeune âge. On apprend à identifier les expressions sur les visages de ceux qui nous entourent, afin d'en savoir un petit peu plus, bien sûr, sur ce qu'ils ressentent. Car lorsque quelqu'un est heureux, il sourit naturellement, mais est-ce que l'inverse est vrai? Nos expressions faciales peuvent-elles influer sur nos émotions? C'est la question que se sont posées des chercheurs. Alors, il faut rappeler qu'en 1988, il y avait une expérience devenue depuis célèbre qui avait montré que le fait de sourire avait une influence certaine sur notre humeur. Mais en 2016, pas moins de 17 équipes ont cherché à reproduire ces résultats sans succès. Eh bien, il y a une équipe de l'Université du Texas et de l'Université du Tennessee, nous sommes aux États-Unis, qui a compilé près de 50 ans de données. Ça représente 138 études, ça représente plus de 11 000 participants dans le monde entier, avec l'idée d'éclairer les liens entre notre corps et nos ressentis. Et leur conclusion, c'est qu'il existe bien une sorte de ce qu'on appelle rétroaction faciale. En d'autres mots, sourire nous rend un peu plus heureux. Mais prendre une mine renfrognée fait également ressortir notre colère. Une conclusion qu'il est toutefois bon de tempérer, car les effets observés par les chercheurs restent faibles. Et une autre étude menée, celle-là, par des chercheurs de l'université de Pennsylvanie, nous sommes toujours aux États-Unis, pointe du doigt un effet délétère du sourire forcé. Dans la restauration, par exemple, les employés sont parfois contraints de sourire face à leurs clients. Ils affichent ainsi un semblant d'émotion positive que les chercheurs ont relié à une consommation excessive d'alcool en fin de journée. Génial! Un peu comme si, en dissimulant leurs émotions négatives dans la journée, ces employés avaient atteint les limites de leur capacité de maîtrise de soi et se trouvaient le soir venu incapable de trouver la force de résister à la tentation de l'alcool. Sourire dans le cadre du travail peut sembler très positif, mais le faire de manière plus ou moins contrainte tout au long d'une journée, ça peut se révéler fatigant, c'est ce qu'explique Alicia Grande, psychologue, d'autant plus que lorsqu'on parle de personnes jeunes et inexpérimentées et qui occupent des emplois peu gratifiant, eh bien ça s'accélère. Les infirmières, en revanche, sont de celles qui peuvent forcer leur sourire sans avoir trop à en souffrir, car elles créent ainsi du lien avec leurs patients. Voilà. Se forcer à sourire rendrait apparemment plus heureux. Bien écoutez, c'est avec le sourire que je vous dis au revoir et que je vous souhaite de passer une bonne fin de journée à l'écoute, bien sûr, des émissions de Graphite. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission où on retrouvera, je l'espère, toujours Anne Fleur qui va nous faire voyager un petit peu partout. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite que vous retrouvez sur le site internet graphite.net ou sur la bande FM sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Je vous souhaite de passer donc une bonne journée et je vous retrouve de samedi prochain, bien sûr, à 12h. Merci, à bientôt, au revoir.